Bonjour à tous. Merci de me permettre d'enlever le masque. Comme ça, vous voyez que je suis bien rasé. Je vous invite ce matin à lire avec moi dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Première épître de Pierre, chapitre 1er, nous lirons les 9 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Merci Seigneur pour toutes les promesses qui sont contenues dans ta parole. Et nous savons que c'est toi, en effet, qui es le oui et l'amen, et que chacune de ces promesses sera accomplie en notre faveur, parce que tu es un Dieu fidèle. Je te loue, Seigneur, pour l'amour immense que tu as pour chacun d'entre nous. Je te loue aussi parce que c'est toi qui as déversé ton amour dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Et nous te sommes reconnaissants de nous permettre de vivre ces moments de communion fraternelle où nous pouvons ensemble t'offrir un culte de louange et d'adoration. Parce qu'effectivement, comme nous l'avons chanté, tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir de nos cœurs qui t'aiment toute la reconnaissance et toute notre gratitude. Seigneur, aide-nous dans ce moment de méditation de ta parole, que nos cœurs soient réceptifs et à toi seul soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Après avoir lu ces textes de la parole de Dieu, et même, j'espère que chacun d'entre vous, vous connaissez très bien cette lettre que Pierre a adressée à des chrétiens dans la souffrance, puisqu'ils étaient dispersés et qu'ils connaissaient la persécution à cause de leur foi. Ce qui me choque, mais dans le bon sens, c'est que l'homme qui s'adresse à ces chrétiens au travers de cette lettre le fait avec tellement d'amour, tellement d'affection, que nous avons du mal à croire que c'est le même personnage que l'Évangile nous présente. Dans l'Évangile, Pierre apparaît comme un homme au caractère bien trempé, au caractère, je dirais, assez dur. Il a aussi une mentalité, je dirais, de quelqu'un qui est ambitieux. Souvenez-vous de la manière dont un jour il a parlé à Jésus en disant « Quand bien même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Il a été repris par le Seigneur. Et puis, nous ne connaissons pas, parce que la Bible ne nous fait pas part de cela, du cheminement que cet homme a parcouru. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, qui est en prison. Il connaît un miracle extraordinaire, puisque Dieu lui-même, au travers d'un ange, vient le secourir et le sortir de cette impasse. Et il a là la preuve de la fidélité et de la puissance de Dieu. Puis, il y a un autre passage de la Bible qui nous révèle, ça se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, que cet homme a eu une attitude un petit peu difficile à comprendre. Il a été dans une période d'hypocrisie et il a dû faire face à cette parole de l'apôtre Paul qui l'a remis dans le droit chemin. Et l'apôtre Paul, qui aimait Pierre parce que c'était un serviteur de Dieu authentique, eh bien, a dû le reprendre et lui montrer que son attitude n'était pas celle que Dieu attendait de lui. Et puis après, c'est le silence. On ne sait plus ce qui s'est passé dans sa vie. On ne sait plus quel est le cheminement exact qu'il a parcouru. Mais une chose est certaine, c'est qu'en arrivant à la fin de sa carrière, ici-bas sur la terre, son cœur est changé. Il parle à ses chrétiens avec une affection paternelle. Et on voit bien qu'il est rempli de compassion, qu'il est rempli de miséricorde. Et lui-même a fait l'expérience de la grande miséricorde de Dieu dont il fait mention dans ces versets que nous venons de lire ensemble. Et débordant d'amour pour le Seigneur et débordant d'amour aussi pour ses frères et sœurs qui sont dans la souffrance, alors il va non pas s'apitoyer sur leur sort. Lui-même d'ailleurs se trouve dans une situation difficile. Quand vous allez à la fin de cette lettre, de la première épître de Pierre, au chapitre 5, vous avez une parole qui met en évidence que cet homme aussi a connu un certain exil. Et il s'adresse aux chrétiens dans cette même lettre et il dit « L'église qui se trouve à tel endroit, chez telle personne, l'église de Babylone, vous salue. » Ça veut dire donc qu'il avait été lui aussi déporté, il se trouvait là en Babylone, et conscient de toute la souffrance qui était le partage de tous ces chrétiens dispersés, connaissant la persécution, eh bien, il est débordant d'amour pour eux, et au lieu de s'apitoyer sur leur sort, il va leur montrer ce qui est essentiel, l'héritage qui les attend dans la gloire. Vous savez, il n'y a rien qui puisse autant fortifier, encourager quelqu'un que de lui montrer ce qui est en réserve dans le ciel par la grâce de Dieu. Quand nos yeux sont trop fixés sur les problèmes ou les difficultés que nous traversons, les épreuves qui nous accablent, et que nous perdons de vue l'espérance vivante qui est celle de tous les chrétiens, alors le malin en profite pour mettre le découragement, pour mettre dans le cœur des pensées négatives. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, au travers de ces chants que, ensemble, nous avons pu chanter, qui ont été proposés par notre frère, eh bien, je me rends compte que nous aussi, nous pouvons trouver une pleine et totale satisfaction, un véritable bonheur, malgré les difficultés que les uns et les autres, pour une raison ou pour une autre, nous pouvons connaître. Une pleine satisfaction est possible pour nous quand nos yeux sont fixés sur le chef et le consommateur de la foi qui est Jésus-Christ. Et il nous invite ce matin à prendre en considération que finalement, nous ne sommes ici-bas sur la terre que de passage, pour un temps qui est relativement court, mais que par sa grâce, une éternité de félicité nous attend. Alors écoutez le cantique qui sort de la bouche de Pierre. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, etc. etc. » Il déborde d'enthousiasme, il déborde de joie, il déborde d'allégresse. Pourquoi ? Parce qu'il est conscient d'avoir fait l'objet de la grande miséricorde de Dieu. Et il dit à ses chrétiens, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, il leur dit, n'oubliez pas, vous êtes régénérés. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur ce terme. Régénéré. Ce miracle n'est pas à confondre avec des changements, des renoncements, des perfectionnements que l'homme naturel peut accomplir. Vous savez, c'est donné à chacun de pouvoir s'améliorer de par sa propre volonté. Seulement, la régénération n'a rien à voir avec cela. Un homme peut réformer sa conduite, mais il n'a pas le pouvoir de changer sa nature. Je voudrais vous rappeler ce qu'un texte de l'Écriture, que vous connaissez certainement très bien, nous rappelle. C'est Jérémie, au chapitre 13 de son livre et au verset 23, qui dit ceci. « L'Éthiopien peut-il changer de peau ? Le léopard peut-il effacer les taches de sa peau ? Nous savons tous, mes frères et sœurs, qu'il est possible à un homme de dompter un léopard, mais il restera dans sa nature profonde un animal sauvage. Chacun d'entre nous, nous avons pu voir peut-être à l'occasion d'une certaine séance dans un cirque ce qu'un dompteur est capable de faire avec une bête sauvage. J'ai vu personnellement un dompteur ouvrir la gueule du lion ou du léopard et mettre sa tête à l'intérieur. Mais je vous prie de croire que si l'un d'entre nous entrait dans la cage de ce lion, eh bien nous en paierions très cher le prix. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Nous pouvons déployer des efforts considérables pour nous changer. Et il y a des hommes et des femmes qui pensent, parce qu'ils sont arrivés à une certaine amélioration dans leur conduite, que maintenant ils sont prêts à entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que, par exemple, beaucoup de soi-disant chrétiens remplissait l'église que l'on appelle l'église de la Odyssée. Et ces chrétiens, plutôt ces gens qui étaient dans cette église, pensaient qu'ils étaient prêts et ils disaient « Je suis riche, je n'ai besoin de rien ». Mais lorsque Jésus s'adresse à eux, alors il leur fait tout simplement cette, je dirais, pas cette promesse, mais le conseil qu'il leur donne, c'est d'acheter un collyre divin pour oindre leurs yeux, afin qu'ils ne soient plus aveugles, mais qu'ils voient, et de l'or épuré par le feu, afin qu'ils aient la véritable richesse. Vous savez, mes chers frères et sœurs, rien n'est plus terrible. Et je dirais, aux yeux de l'Éternel, c'est certainement ce qu'il y a de plus triste que de voir des hommes et des femmes qui se croient en sécurité par leur moralité, également par une certaine conduite qui est honorable, mais qui, écoutez bien la suite, ne sont pas nés de nouveau. Quand Dieu a parlé au travers de son Fils bien-aimé, à un docteur de la loi, qui était certainement très digne, honorable, respectable, qui lui-même, eh bien, se soumettait à certaines exigences de la loi. Et vous savez, un docteur de la loi avait pour devoir de prier plusieurs heures par jour, également de jeûner au moins deux fois par semaine. Il payait la dîme de tous ses revenus à l'Éternel. Et ce fameux docteur de la loi que vous connaissez et qui s'appelle Nicodème et qui nous est présenté dans l'évangile de Jean a dû affronter le Seigneur, lequel n'a pas été impressionné ni par sa moralité, ni par sa conduite, ni par sa respectabilité. Mais il lui a dit clairement, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Mais ici, Pierre s'adresse à ces chrétiens et il leur dit, par la grande miséricorde de Dieu, vous avez été régénérés. Et ça, c'est une chose qui devrait nous faire déborder de joie et d'allégresse. Si nous sommes conscients d'avoir été régénérés, quelqu'un dira, et par quel moyen pouvons-nous savoir que cette opération a vraiment été accomplie et qu'elle est notre partage? Il y a deux points sur lesquels je voudrais vous entraîner maintenant. Par exemple, dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et à partir du verset 23, j'aimerais vous lire ce passage. Je vais lire même au chapitre 4 des Éphésiens. Je vais lire ici à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez-vous, l'homme régénéré ne peut pas douter un seul instant du salut de son âme et de cette opération qui a été accomplie dans sa propre vie. Il serait aussi ridicule pour un être régénéré de douter de la nouvelle vie qu'il a reçue dans le Seigneur que si nous-mêmes nous doutions de notre propre naissance. Voyez-vous, c'est l'Esprit de Dieu, selon ce que dit Paul dans son épître aux Romains, qui rend témoignage à notre esprit que nous lui appartenons. Mais Jésus a dit aussi dans l'Évangile que l'on reconnaît l'arbre à son fruit. Si nous sommes régénérés, alors nous venons de le lire dans l'épître aux Éphésiens, il y a un résultat qui doit être visible de tous ceux qui nous entourent. La vie de Dieu doit être manifeste en nous et ceux qui nous regardent vivre doivent se rendre compte qu'en nous vit Christ. Paul, par exemple, notamment dans son épître aux Galates, dit la chose suivante. Il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le Christ vivant en lui, eh bien, se manifestait par des fruits que tout le monde pouvait voir. Comment est-ce que l'on peut se dire régénéré et manquer d'amour? Comment peut-on se dire régénéré et garder l'amertume? Comment peut-on se dire régénéré et vivre dans une forme de haine? Comment pouvons-nous dire être régénéré et garder dans le cœur des racines d'amertume qui sont condamnables, puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous demande de veiller à cela, pour que cela ne se répande pas dans une communauté comme étant un désastre épouvantable. Régénérer, ça veut dire que l'on a appris tout simplement à se dépouiller de l'ancienne nature, parce que nous avons compris que Christ l'a crucifié avec lui sur la croix, et par la foi, cette foi que nous avons chantée, cette foi que nous mettons en exergue, cette foi qui est indispensable pour le salut de notre âme, par le moyen de la foi, nous nous revêtons de l'homme nouveau, et cet homme nouveau, eh bien, il a les caractéristiques de la personne même de Jésus-Christ. Et il faut donc une illumination du cœur pour que réellement nous puissions voir Christ, le saisir par la foi et ainsi, eh bien, honorer le Seigneur et le glorifier par notre marche et par notre conduite. Nous avons, dans le texte que nous venons de lire, la raison pour laquelle, eh bien, nous sommes régénérés. Il est dit par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Sa résurrection corporelle, eh bien, est le fondement de notre foi. Et j'aimerais maintenant vous parler un instant de ce que je crois dans la puissance de la vie de résurrection de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous ici, nous croyons au ministère extraordinaire du Saint-Esprit. Et j'ai entendu plusieurs parler justement de cette action du Saint-Esprit. C'est une puissance divine à l'œuvre dans nos vies. Et le Saint-Esprit a été répandu dans notre cœur à partir de quel moment? Moi, je ne peux pas accepter un seul instant de croire que le Saint-Esprit puisse venir habiter un cœur qui n'a pas été régénéré. Je ne peux pas croire un seul instant que le Saint-Esprit puisse dominer une vie qui n'a pas été au préalable transformée par Dieu. J'ai entendu parfois des aberrations à ce sujet. Et j'ai entendu quelques-uns affirmer, écoutez bien, non pas que certains ont été baptisés du Saint-Esprit avant le baptême, ce que je crois possible, parce qu'à partir du moment où quelqu'un a reçu Jésus comme son sauveur personnel et qu'il a été régénéré, alors l'Esprit de Dieu peut venir habiter ce cœur, c'est clair. Mais que l'on me dise, non sauvé, le Saint-Esprit est venu habiter le cœur, je dis non. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. La lumière dissipe les ténèbres. Et c'est ça qui est formidable. Quand Christ vient dans une vie, il dissipe les ténèbres, il chasse tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est Christ lui-même qui est placé sur le trône de notre cœur. Et si Christ règne dans notre cœur, alors il n'y a pas de place pour ces choses qui appartenaient autrefois à notre ancienne nature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous pouvons alors glorifier le Seigneur, marcher dans cette lumière et l'honorer. Vous savez, Je crois que le fait que Pierre exulte de joie comme cela en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », c'est qu'il est conscient de cette œuvre de transformation qui a été aussi opérée dans sa propre vie. J'aimerais vous ramener à une expérience de cet homme. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, nous trouvons aussi Pierre qui reprend contact avec le Seigneur. Il y a eu un moment de défaillance, il y a eu un moment où il a perdu un peu la notion de cette réalité de marcher avec le Seigneur fidèlement. La preuve, c'est qu'il a simplement retenu cette parole de Jésus qui a dit un jour, « Eh bien, après que je sois élevé, vous me reverrez sur le bord du lac de Galilée. Vous me reverrez en Galilée. » Et c'est parce qu'il s'est souvenu de cette parole qu'après avoir perdu de vue, écoutez bien, après avoir perdu de vue Jésus, il se dirige avec un groupe d'autres serviteurs comme lui, ils étaient 7, et ils arrivent là, en Galilée, ils regardent partout, et il leur semble que Jésus n'a pas tenu sa promesse. En tous les cas, ils ne le voient pas. Et comme ils ne le voient pas, alors Pierre prend une décision. Et vous savez quelle est la décision qu'il a prise. « Moi, je vais pêcher. » Et les autres, en entendant cette parole sortir de la bouche de Pierre, disent « Ah, tu vas pêcher ? Bien, nous aussi, nous allons avec toi. » C'est curieux, n'est-ce pas ? Surtout que Jésus, la première fois où il l'a rencontré, lui a dit « Laisse tout, viens, suis-moi, et je te ferai pêcheur d'hommes. » Et la Bible nous dit qu'il laissa tout. C'est-à-dire tout son matériel de pêche, tout cela, il l'a laissé. Il a suivi le Seigneur. C'est drôle, il vient de perdre maintenant de vue le Seigneur et les choses anciennes remontent à la surface et il dit, je vais aller pêcher, je vais déployer des efforts puisque le Seigneur n'est pas là, eh bien je vais essayer par moi-même de trouver ce dont j'ai besoin. Et il part à la pêche avec les autres et vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Ils ont travaillé toute la nuit sans prendre un seul petit poisson. Sauf qu'à un moment donné, Jésus apparaît sur le rivage. Un peu comme habituellement, les commerçants arrivaient pour attendre la venue des pêcheurs et puis emporter le fruit de leur pêche. Et Jésus, qui est sur le rivage, s'adresse à eux. Vous savez ça, c'est important. Il leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? N'avez-vous rien pris ?» Et il les oblige à avouer leur échec. Vous savez, le chemin de la victoire et le chemin du triomphe passent d'abord par l'humiliation par laquelle le Seigneur nous fait passer. Et ils sont obligés de reconnaître, non, leurs yeux sont fermés, ils ne peuvent pas encore reconnaître le Fils de Dieu. Et ils sont obligés d'avouer leur échec, d'avouer leur défaite. Ah, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mes chers frères et sœurs. Mais je dois vous dire que dans ma vie, plus d'une fois, j'étais obligé de baisser la tête et d'avouer mes échecs, d'avouer mes défaites, d'avouer ma faiblesse, d'avouer mes chutes. Mais quand je l'ai fait avec un cœur sincère, le Seigneur s'est toujours trouvé là pour relever et apporter une grande paix et une grande joie. Et c'est ce qui s'est passé. Quand en fait, ils ont dit « Non !» Quand humainement parlant, ils ont reconnu leur échec et que sous la pression de cette voix, ils ont dit « Non, nous avons travaillé toute la nuit, c'est un échec total !» Alors Jésus parle avec autorité et il dit « Eh bien, jetez le filet, maintenant et en obéissant au Seigneur, alors là, ils prennent une multitude de poissons. Et Jésus, alors, s'est fait connaître à ses disciples. Et Pierre, lui-même, a eu les yeux ouverts. Là, l'illumination a été faite. Et il s'approche du Seigneur, vous le savez, avec une grande reconnaissance. Il vient vers lui, parce qu'il sait très bien aussi ce qui s'est passé entre-temps. Il a renié son Seigneur. Lui qui avait usé de présomption et qui avait dit « Même si tous t'abandonnent, moi je t'abandonnerai jamais. » Il vient au pied du Seigneur. Et savez-vous, le Seigneur ne lui fait absolument aucun reproche. La seule chose qui l'intéresse, c'est ceci. Pierre, non pas Pierre, il lui dit « Simon, fils de Jonas ». Je m'arrête ici un instant. C'est curieux. Le Seigneur, un jour, lui a dit, « Tu es Simon, désormais tu seras appelé Cephas, Pierre. » Et là, alors qu'il est au pied de Jésus, Jésus parle à Pierre et lui dit, « Simon, fils de Jonas. » Savez-vous pourquoi? Comme pour lui rappeler, « Tu vois, mon cher disciple, jusqu'ici, tu as vécu davantage sous l'effet de ton ancienne nature que dans le pouvoir de la nouvelle nature. Le nom que Jésus lui avait donné était un nom glorieux. J'ai entendu quelqu'un dire ce matin, dans sa prière, dans sa louange, et ça c'est quand même quelque chose de précieux parce que c'est exactement en harmonie avec la déclaration de la Bible. Cette personne a dit, tu m'as donné un nom nouveau. Le nom est toujours en rapport avec ce que nous sommes. C'est comme cela que dans la Bible, le nom de certains personnages est en rapport avec ce que nous voyons d'eux dans leur marche, dans leur comportement, dans leur attitude. Par exemple, Jacob le trompeur a dû affronter le Seigneur. Et quand il a affronté le Seigneur, qu'a fait le maître? Eh bien, il a permis qu'il soit humilié, frappé à l'emboîture de la hanche. Il est devenu un boiteux. Mais c'est là aussi qu'il lui a dit, « Ton nom ne sera plus Jacob. Tu ne pourras plus te débrouiller par toi-même. Tes combines, tes manigances, ta façon d'agir, ta façon de faire, toi qui pouvais croire, que tu allais apaiser l'amertume de ton frère qui te poursuit. C'est pas de cette manière-là que tu vas réussir. » Et il a reçu un nom nouveau, boiteux maintenant. Il ne peut plus prendre la fuite. Il est obligé de faire confiance à Dieu. Et vous savez quel est le résultat. Les deux se sont jetés au cou l'un de l'autre et ils ont été réconciliés. Pierre, eh bien, il entend le Seigneur lui poser la question. M'aimes-tu, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, il baisse encore un peu la tête. Oui, Seigneur, je t'aime. Tu sais toutes choses. Trois fois, le Seigneur lui a demandé. Et à la dernière fois, il est obligé de dire, mais tu sais toutes choses, je ne peux rien te cacher. Ça veut dire, tu sais que je t'ai renié, tu sais que je suis tombé, tu sais que je suis dans la chute, mais tu sais que je t'aime. Je pense qu'il y en a beaucoup ce matin qui pourraient dire ici, Seigneur, tu sais toutes choses de mon existence. Il y a bien des faiblesses, il y a bien des chutes, il y a bien eu des turpitudes, il y a bien eu des choses qui t'ont déshonoré. Mais Seigneur, toi qui regardes au fond du cœur, toi qui connais les replis de mon cœur, tu sais que je t'aime. Et vous savez qu'a dit le Seigneur? Il lui a dit, paix mes agneaux, paix mes brebis. Je pense que ça, ça l'a marqué. Parce que maintenant, il est là et il s'adresse justement à ces agneaux, à ces brebis qui sont désemparés. Mais regardez avec quelle affection, avec quelle tendresse, avec quel amour il parle à ces brebis-là. Il leur parle de l'espérance glorieuse, il leur parle de la régénération, il leur parle de cette espérance vivante que nous pouvons avoir dans notre cœur à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que il est écrit dans la Bible, souvenez-vous de cela mes chers frères et sœurs, que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, cet Esprit-là aussi rendra la vie à nos corps mortels. Pas seulement après la mort, mais déjà il nous fait entrer dans l'éternité. La vie éternelle, c'est maintenant. La vie éternelle, c'est une manière de vivre. La vie éternelle, c'est un comportement maintenant. C'est ce que nous devons manifester maintenant. Et c'est par la puissance de la vie de résurrection de Jésus. Quand un jour, j'ai compris que j'ai été crucifié avec Christ, alors je n'ai plus tenu compte de ce que j'ai été. Mais j'ai pris conscience que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, je suis devenu avec lui une même plante. C'est ce que j'ai confessé, c'est ce que j'ai témoigné le jour de mon baptême. Quand j'ai été plongé dans les eaux, j'ai été enseveli avec Christ. Mais quand je suis sorti des eaux, c'est pour être précisément une même plante avec le Christ vivant et ressuscité et qui maintenant me transmet par sa puissance la force de marcher en nouveauté de vie. Je n'ai pas le pouvoir de marcher sans péché, livré à moi-même. Mais j'ai le pouvoir sur le péché quand Christ règne dans mon cœur et dans ma vie. La puissance du Saint-Esprit nous est communiquée pour cela. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans la Bible, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Nous n'avons pas d'autre moyen. Autrement dit, de nous laisser remplir de l'Esprit de Dieu qui n'a d'autre but, tant de fois je l'ai répété ici même dans ce lieu, que de placer Christ sur le trône de notre cœur. Et quand il règne dans notre vie, alors oui, notre comportement, notre attitude est tout à fait différente. Et si nous avons cette espérance vivante, vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Le diable essaie par tous les moyens de nous anéantir, de nous détruire. Mais regardez précisément ce que Pierre dit ici. Il dit, nous avons une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ et nous sommes gardés par lui pour obtenir un héritage formidable dans le ciel. Là, je voudrais m'arrêter aussi pendant quelques instants. C'est quoi cet héritage? Vous savez, certains parlent parfois des routes pavées d'or du ciel, des portes qui sont faites en pierres précieuses. Et ils disent, ça, c'est notre héritage. Oui, il me tarde de voir ces routes d'or, il me tarde de voir ces portes en perles précieuses, en pierres précieuses. Mais voyez-vous, je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire maintenant. Il n'y a pas longtemps, avec mon épouse, nous avons eu une conversation comme on peut avoir dans un couple. Et puis, nous avons envisagé la fin de la course aussi. Vous avez vu avec mes cheveux blancs, il est temps d'y penser aussi. Et en envisageant cela, on a dit, eh bien, l'un et l'autre, ça pourrait nous arriver de nous retrouver tout seuls. Et puis, mon épouse, à un moment donné, m'a dit cela. C'est très flatteur. Hein. Elle a dit, peu importe où nous serons, si tu es avec moi. Et j'ai apprécié. Je me dis, ah oui. Et je vais vous dire, quand je m'en vais loin de la maison, pour une mission quelconque, je suis séparé pendant des heures, peut-être des jours, quand je pense à la demeure qui est la mienne. Ce n'est pas le confort qui est dans cette demeure qui m'attire. Je pourrais dire, peut-être en n'étant pas très bien servi ou très bien accueilli ailleurs, « Oh, il me tarde de revenir à la maison !» Mais imaginez un petit peu comme je serais ridicule. Si en entrant dans la maison, je dirais, « Ah, comme c'est bien ce salon dans lequel on est, et puis tout ce que nous possédons comme confort, puis que je ne dise pas à mon épouse, « Mais surtout toi, tu es là. » Qui est dans le ciel notre héritage ? C'est le Seigneur. C'est lui. Et moi, il me tarde de le voir. Et lui aussi, eh bien, il désire nous avoir avec lui. Mais écoutez bien, pas seulement lui est notre héritage, mais Pierre est conscient qu'en dehors de sa personne glorieuse, il y a quelque chose qu'il ne peut pas exprimer. Cherchez vous-même dans le texte la description que Pierre fait de l'héritage. Il ne trouve pas de mots. La seule chose qu'il peut dire, c'est ce que cet héritage n'est pas. Et il dit simplement ceci, cet héritage-là, il ne peut pas se corrompre. S'il s'agissait de Jésus, il ne parlerait pas de ça. Il dit, cet héritage-là, il ne peut pas se flétrir. Cet héritage-là, eh bien, personne ne peut nous l'enlever. Ah, ça veut dire que rien de ce qui caractérise notre monde, cette terre, et puis cette vie ici-bas sur la terre, ne peut altérer ni atteindre ce que Dieu en réserve pour nous dans le ciel. Ne me demandez pas ce que c'est. Je ne peux pas vous le dire. La seule chose que je sais, c'est que là-bas, il n'y a pas de corruption. Que là-bas, il n'y a pas de flétrissure. Et vous savez, quand il dit « cet héritage-là, il ne peut pas se flétrir », pour moi c'est important. Je vous ai dit il y a un instant à peine, regardez, quand on arrive à la fin de la carrière comme moi, il y a des choses qui apparaissent et qui sont manifestes. Vous savez, vous m'auriez connu il y a 30 ans en arrière, je n'avais pas les cheveux tout blancs. Et quand je me regardais au miroir, à l'âge de 20 ans, mais j'étais noir comme un corbeau. Mais aujourd'hui, je me regarde au miroir et je dis, mais quel malheur! Quelle flétrissure! Et on voit bien comment tout ici-bas passe, mais pas dans le ciel. Pas dans le ciel. Et ça, c'est pour nous. Grâce à qui? Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Grâce à cette œuvre qu'il a accomplie en notre faveur. Et puis aussi, je peux en avoir la certitude, parce qu'il est vivant et il ne peut pas nous tromper. Le Dieu que nous possédons est un Dieu réel. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et Pierre continue et il dit, cet héritage-là, il vous est réservé dans le ciel. Ça veut dire, personne ne peut le toucher. Vous êtes dans la région où vous avez entendu parler de celui à qui on a pris tellement de biens, n'est-ce pas ? Et que l'on a même frappé. Mais nous, on n'a aucun risque en ce qui concerne notre héritage. Personne ne peut le toucher. Oui, bien. Mais si j'avais la certitude que l'héritage est réservé dans le ciel, mais que je n'avais pas la certitude d'arriver, moi, dans le ciel, alors je serai encore dans la peine, je serai encore dans la tristesse. Mais regardez ce qu'il dit, non seulement l'héritage est gardé, vous est réservé, il dit, mais à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Alors là, je m'écris, gloire au Seigneur. Parce que moi, si je pense qu'à moi-même, à mes propres efforts, à ma volonté personnelle, bien, je dis, est-ce que j'arriverai au bout ? Mais lui, il me dit, oui, tu arriveras parce que j'ai le pouvoir de te garder jusqu'à la fin. Vous ne trouvez pas que c'est formidable, ça ? Des fois, j'entends parler de certaines persécutions, de certaines difficultés, j'entends parler de chrétiens dans d'autres pays qui sont en souffrance Et même j'ai eu des fois le haut le cœur en découvrant tout ce qu'ils ont pu subir, tout ce qu'ils ont pu affronter. J'ai lu moi-même le témoignage d'une maman qui s'est trouvée en face de ces bourreaux qui ont ôté la vie de ses enfants devant ses yeux. Et je me suis dit, moi, ça, je ne peux pas. Je ne pourrai pas. Sauf que Dieu me dit, tu n'en as pas besoin maintenant. Mais si cela arrive, c'est moi qui donne la force. Parce que même cette maman, si on lui avait parlé de cela au préalable, elle aurait dit, non, ça c'est impossible. Mais au fur et à mesure que l'on avance, le Seigneur nous communique ce dont nous avons besoin. Pourquoi aurais-je besoin de la force? Tant que je suis loin de cette difficulté, je n'en ai pas besoin. Dieu me donne au fur et à mesure que j'avance, selon sa grâce, selon sa miséricorde, tout ce que j'ai besoin pour triompher de l'ennemi de mon âme et de triompher de toutes les épreuves et de toutes les difficultés. Voyez-vous pour cela? Eh bien, Pierre, il dit, il faut, pour un peu de temps, que vous traversiez ces épreuves. Il dit parce que l'or, qui est pourtant périssable, est éprouvé par le feu. Donc si l'or qui est éprouvé par le feu nous sert d'exemple, il dit à plus forte raison, la foi qui vaut plus que l'or doit être éprouvée. Et ça, bien sûr, nous avons du mal à l'accepter parfois. Je voudrais quand même commencer par dire, avez-vous remarqué, il dit « pour un peu de temps ». Moi, je ne sais pas, mais quand j'étais un enfant et que je voyais un homme de mon âge, je disais « oh là là, j'ai le temps d'arriver là hein. ». Mais aujourd'hui, je me retourne et je me dis « mais on dirait que c'était hier que j'ai dit ça ». Le temps passe très rapidement. Vous lisez le psaume 90 et vous allez voir. L'homme, eh bien, quand il arrive à 80 ans, selon la parole de Dieu, c'est déjà le temps complet. Et puis, vous savez, on y arrive très vite, très très vite. Mais mettons en balance, 80 ans, allez, je vais être bon avec vous, 90 ans, allez encore mieux, 100 ans avec l'éternité de l'autre côté. Vous savez, c'est peu de choses. Et il dit, pour un peu de temps, vous allez connaître les épreuves. Ah oui, mais alors j'ai envie de dire, Seigneur, mais pourquoi l'épreuve? Tu ne peux pas faire d'une manière différente, tu ne peux pas agir d'une manière différente. Pourquoi l'épreuve? Tu ne peux pas arrêter l'œuvre du diable. Écoutez bien, mes chers frères et sœurs, quel bon dos il a le diable, pardon, de faire son avocat là, ce matin. Mais nous attribuons au diable bien des choses. Mais nous devons savoir que celui qui permet tout, c'est Dieu. Et même, il y a dans la parole de Dieu certains passages qui sont assez particuliers. Et Dieu, par exemple, dans un livre prophétique, s'exprime en ces termes. Et il dit, qui sait qui fait pleuvoir? Qui sait qui fait lever le soleil? Qui est à l'origine de certaines choses qui des fois nous effraient? Il dit, c'est moi, c'est moi. Et dans un autre passage, il dit, c'est moi qui crée l'adversité. On a envie de dire, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? Il y a un psaume qui dit, Dieu est au ciel et il sait ce qu'il fait. Il règne parfaitement. Et comme c'est un Dieu d'amour, eh bien, il permet certaines situations, non pas dans le but de nous anéantir. La preuve, c'est qu'au travers d'un écrit de l'apôtre Paul, il est dit, en même temps qu'il a permis l'épreuve, il a préparé le chemin par lequel on va en sortir. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est là qu'on s'aperçoit, ah oui, c'est dur, très dur, moi je me retourne, Et je vois certains épisodes de ma vie, certaines périodes de ma vie où j'étais désemparé, où moi-même je pensais que c'était fini. Puis après, toutes ces choses-là, ténébreuses, eh bien, le soleil de justice s'est levé et j'ai pu m'apercevoir qu'il avait fait une œuvre profonde dans ma vie, dans mon cœur. Et j'ai pu dire avec l'apôtre, oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne veut pas notre anéantissement. Dieu ne veut pas que nous soyons écrasés, démolis, défaits. Dieu veut que nous tirions une leçon de toutes les choses que nous traversons. Et à partir de ce moment-là, nous nous apercevons que des choses les plus terribles se sont transformées en bénédictions pour notre vie. Nous sommes plus forts après l'épreuve qu'avant l'épreuve. Il faut donc avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et regardez, Pierre lui-même, à un moment donné, dit, je poursuis dans le texte que nous avons lu, il dit, lui que vous aimez, sans le voir encore, en qui vous croyez, sans encore l'avoir vu. Il y a deux échelons ici, l'amour et la foi. C'est curieux, mais notre frère qui nous a conduits dans les chants et dans la louange ce matin a mis en exergue certains chants qui parlent de l'amour et de la foi. Et j'ai été drôlement impressionné en chantant un en particulier de ces chœurs où il était question de l'amour et de la foi. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous espérons ou de ce que nous demandons. Et regardez, Pierre devait se souvenir de quelque chose. Jésus lui a demandé, « M'aimes-tu ? » Et l'amour pour le Seigneur est la priorité. Savez-vous pourquoi ? Parce que Paul, dans son épître aux Corinthiens, d'une manière très sévère, mais très juste, il dit, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » En même temps, je me dis, impossible d'aimer le Seigneur et de ne pas avoir la foi. Ou alors, impossible de dire, j'ai la foi et de ne pas aimer le Seigneur. Ces deux choses-là sont indissolubles, inséparables. On ne peut pas séparer l'une de l'autre. Or, Pierre a fait l'objet de l'amour du Seigneur qui lui a pardonné. Et il a pu, par la foi, triompher de sa faiblesse et devenir l'homme de Dieu remarquable que nous connaissons au travers de l'Écriture et qui est mis en évidence au travers de cet écrit-là. Cet homme donc nous exhorte à nous réjouir d'une joie ineffable et glorieuse parce qu'il termine ainsi, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mes chers frères et sœurs, l'ennemi de notre âme est un lion rugissant qui rôde autour de chacun d'entre nous, autour de la communauté, autour des églises, avec un seul but, c'est d'en dévorer quelques-uns. Mais je sais que Seigneur, avec les promesses qu'il nous a faites, tient parole et il accomplira bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous savez, Jésus un jour a dévoilé le voleur. Et il a dit, lui, c'est un voleur, l'adversaire de notre âme. Il ne vient que pour dérober, gorger, détruire. Mais il dit, moi je suis le bon berger. Écoutez bien, il dit, moi je suis le bon berger. Il n'y a personne d'autre qui peut remplacer le Seigneur. Son ministère est unique, et je veux préciser, il est le vrai chef de l'Église. Jésus est la tête, et il dit, et moi, je suis venu, afin que mes brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Alors mes chers frères et sœurs, haut les cœurs, ne nous laissons pas décourager par le malin, et s'il a infiltré dans notre cœur quelques racines mauvaises, rappelons-nous, nous sommes régénérés, et nous avons sa puissance à notre disposition pour triompher de cela et fermer définitivement la bouche de l'ennemi pour qu'ensemble, unis dans l'amour et dans une véritable communion, nous puissions triompher de tout et manifester sa gloire au travers de nos vies. Que Dieu soit loué. Amen.